descend au Tartare. Le centre des enfers. Dans ce lieu effrayant, sombre, enfoncé au cœur de la terre, à une distance qu'une enclume d'airain qui tomberait mettrait 9 jours à parcourir, Zeus descend dans les ténèbres, interminablement. Il n'a pas peur. Il vient chercher l'instrument de sa victoire. Enfin, il franchit le Styx, le fleuve du non-retour, passe le seuil de bronze des enfers et se dirige vers la gigantesque tour de fer au centre du Tartare, où sont enchaînés les monstres. Les hécatonchires possèdent chacun 50 têtes et 100 bras. Leur aspect est terrifiant. Zeus a un mouvement de recul devant leur taille et leur laideur. Mais il s'approche d'eux. Après tout, ces êtres sont mes oncles, pense-t-il. Je n'ai rien à craindre d'eux. Les monstres attendent. Si je vous délivre et vous ramène à la lumière, combattrez-vous à mes côtés contre Cronos ? Sur leurs 150 faces se dessinent autant de rictus hideux. Kotos, Briare et Gies répondent en chœur. « Délivre-nous, nous serons tes serviteurs, et tu verras de quoi nous sommes capables. » Ils lèvent leurs 300 poings et hurlent « Nous ne laisserons aucune chance à Cronos, ce faux frère !» Brontès, Stéropès et Argès, les trois cyclopes, bien que géants, paraissent petits à côté des hécatonchires. Ils braquent sur Zeus leur œil unique plein d'espoir. « Vous aussi, je vous délivrerai, si vous promettez de lutter pour moi. » Au coin de chacun de leur œil, Zeus voit une larme de joie. Les cyclopes tremblent d'impatience à l'idée de fuir ce lieu qu'ils détestent. « Nous ne sommes que des bâtisseurs de murs, mais délivre-nous et nous te serons éternellement fidèles. » Les cyclopes sont aussi les gardiens du feu qui grondent sous la terre. Ayant enfin retrouvé la lumière, ils offrent à Zeus ce qui sera son arme mortelle et l'insigne de son pouvoir. La foudre avec l'éclair et le tonnerre. À Poséidon, ils offrent le trident qui fait jaillir l'eau des rochers, assèche les sources et déclenche des tremblements de terre, et à Hadès, un casque en peau de chien. Celui-ci n'est pas très content de ce cadeau. « Mets ce casque sur ta tête, Hadès, » lui dit Argès. À peine Hadès a-t-il posé le casque sur sa tête, qu'il disparaît aux yeux de tous. « Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si étonné? Tu es devenu invisible, Hadès. » Les hécatonchires s'impatientent. Ils grondent, ils veulent combattre. Ils ont déjà commencé à arracher aux montagnes des pierres énormes qu'ils jettent de toute leur force en direction du mont Othrice. Prométhée les observe et dit « Regardez-les, ils ont 50 têtes chacun, mais elles ne contiennent pas plus de réflexion que l'unique crâne du plus borné des titans. S'ils continuent comme ça, il aura été inutile de les délivrer du Tartare. » Zeus n'apprécie pas l'ironie de Prométhée, mais il se force à la patience. « Que préconises-tu, Prométhée ? Nous devons organiser l'attaque. Pour commencer, pendant que les cyclopes bâtiront une muraille sur le mont Olympe, derrière laquelle nous serons à l'abri des projectiles, je vais ordonner aux hécatonchires de faire des tas de pierres hauts comme des collines. Et dans quel but ? Cela les occupera, canalisera leurs énergies brouillonnes et sera utile pour la suite du combat. » Le travail des monstres, sous les ordres de Prométhée, est bientôt terminé. « Maintenant, Hadès, à toi de jouer !» Hadès, coiffé de son casque magique, se dirige vers le mont Othrice. Il voit bientôt les titans Ménoïtos et Hyperion en pleine discussion. Il s'approche d'eux, retire son casque, puis le remet aussitôt. Les deux titans médusés, qui l'ont vu apparaître et disparaître, se lèvent, crient, le cherchent. Hadès retire de nouveau son casque et le remet une seconde après. L'alerte est donnée. Ménoïtos et Hyperion courent derrière Hadès, suivis de tous les titans qui dévalent la pente. Bientôt, ils sont tous dans la plaine. Prométhée a ordonné aux hécatonchires de saisir dans chacune de leurs 100 mains un rocher énorme. Ils attendent. Prométhée donne le signal. Les 300 rochers sont projetés sur les titans. Les hécatonchires reprennent 300 rochers sur l'état qu'ils ont fait et les lancent tous ensemble au signal. Au signal de Prométhée. Et ainsi, plusieurs fois de suite, le mouvement bien réglé, inexorable, des 300 bras rythmés par le rugissement sauvage qui sort des 150 bouches, Grise un moment Prométhée, mais bientôt il ordonne aux monstres de cesser l'attaque. Dans la plaine, la plupart des titans sont écrasés sous les roches, seulement blessés. Mais aucun ne meurt, car ils sont immortels. Zeus descend de l'Olympe avec ses combattants qui ligotent les titans blessés. Prométhée aperçoit son frère Ménoïtos, le bras coincé sous un rocher, qui écume de rage. Avec Épiméthée, il court vers lui. Mais avant qu'il l'atteigne, le fils de Japète lève son poing libre et insulte son vainqueur qui passe près de lui. Zeus se tourne alors vers l'innocent et courroucé le foudroie. Sous les yeux effarés de ses frères, Ménoïtos n'est plus que cendre. Pendant un moment, le temps est comme suspendu. Zeus lui-même semble pétrifié par l'étendue de son pouvoir. Tous comprennent alors que l'immortalité des fils de Titan n'est rien devant la colère de Zeus. « Qu'as-tu fait? Où est mon frère ?» demande Épiméthée. « Je l'ai envoyé au fond de l'Érèbe, dans le fleuve de la mort. Ainsi seront traités ceux qui me manquent de respect. » Prométhée sent la colère monter en lui. Il serre les poings, mais ne dit rien.